بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فلالونجي تاع الله سبحانه وتعالى اون سيت نوي دي 27 جمادى برومير 1441. نو كومونسون افيك ليد الله سبحانه وتعالى اللي تدعو عمدة الاحكام ذو الحافظ تقي الدين ابو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله، ا بارتير دو ليكسبليكاسيون كون ا في العلامه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليهم. Et premièrement, on commence par une courte biographie de l'Hafid Abd al-Ghani al-Maqdisi, rahimahullah, de son nom Taqiyuddin Abu Muhammad al-Hafid, c'est-à-dire le mémorisateur Abd al-Ghani al-Maqdisi ibn Abd al-Wahid ibn Ali ibn Surur ibn Rafi' ibn Hassan ibn Ja'far al-Jamma'ili al-Maqdisi thumma al-Dimashqi al-Mansha. Il est né dans le village de Jamma'il, au site de Nablus en Palestine, rahimahullah ta'ala, au l'an 1541 de l'Hégire, qui correspond à peu près au 1146 de l'ère grégorien. Al-Hafidh rahimahullah a grandi dans une famille vertueuse et savante. Il a débuté son apprentissage avec le doyen de sa famille, l'érudit cheikh Omar Mohammed ibn Ahmed ibn Qudam al-Maqdisi, qui était le père de Muwaffaquddin ibn Qudam al-Maqdisi. Il Muwaffaq, rahimahullah, est l'auteur d'une grande et célèbre référence de fiqh qui s'appelle Mughni. Les hommes de science s'appuient sur 5 références de fiqh. Il y a 5 grandes références de fiqh. Fait partie de ces 5, le Mughni, ainsi que le Mjmou' de Nawawi, Tamhid l'Ibn Abdelbar, Sunan al-Kubra l'Bayhaqi, et le Muhalla l'Ibn Hazm, rahmatullah alayh. Et Abd al-Ghani al-Maqdisi, le mémorisateur, le grand imam, a étudié chez d'autres savants de Damas. Et Muwaffaq al-Din ibn Qudam al-Maqdisi était aussi le cousin de Abd al-Ghani al-Maqdisi. Muwaffaq, rahmatullah alayh, avait un penchant pour le fiqh. Et Abd al-Ghani, rahmatullah alayh, était attiré par le hadith. Les deux cousins ont voyagé ensemble pour la recherche de la science. Ils se sont rendus à Bagdad, où ils ont rencontré de grands hommes de science chez lesquels ils ont appris. Et puis, l'Hafid Abd al-Ghani rahimahullah s'est rendu ensuite en Égypte et en Iran à Asfahan, puis il est revenu à Damas rahmatullah alayh. Durant ses voyages, il a rencontré beaucoup d'hommes de science auprès desquels il a étudié rahimahullah ta'ala. Et quand il est revenu à Damas, il s'est consacré à l'enseignement. Et il a eu un grand nombre de professeurs et un grand nombre aussi d'élèves. Sa croyance était la croyance des gens de l'unité et de la sunna. Il ne perdait pas une minute de son temps, rahimahullah. Il était continuellement occupé par l'adoration, l'écriture ou l'enseignement. Il rendait service aux gens. Il était très pieux et très généreux. Parmi les témoignages des hommes de science à son sujet, Diya al-Maqdisi, rahimahullah, a dit: il n'était pas interrogé sur un hadith sans qu'il ne s'en rappelle et l'explique en démontrant son authenticité et ou sa faiblesse. Al-Hafidh ibn Kathir a dit de lui: il était rare de rencontrer quelqu'un plus savant que lui à son époque dans la science du hadith et dans la science des hommes. Taj Dilkindi rahimahullah a dit de lui: il ne craignait les reproches de personne quand il s'agissait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Al-Hafidh Abd al-Ghani rahimahullah a été éprouvé comme le furent les messagers, les prophètes, les vertueux et les réformateurs avant lui. Il fut chassé de Damas après une conférence où il évoqua l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala et la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala au tiers de la nuit, comme il sied à sa grandeur subhanahu wa ta'ala. Et il évoqua aussi durant cette conférence que le Coran est incréé et que le Coran c'est la parole d'Allah. Il défendait, rahimahullah, la aqidah des gens de l'unité et de la sunnah. Les gens de l'innovation et du faux ont provoqué son expulsion de Damas. Il s'est rendu au Caire où il enseigna le hadith. Le fuqaha là-bas au Caire se sont plaints de son enseignement au gouverneur d'Égypte qui ordonna son expulsion vers le Maghreb. Mais le Hafid rahimahullah est mort avant l'arrivée de la lettre de son expulsion vers du Caire. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, dont celui-ci que nous allons étudier, qui est « Umdat al-Ahkam ». Il est mort, rahimahullah, le 23 Rabi' premier, au l'an 600 de l'Hégire, aux alentours de 1203, à l'âge de 59 ans. Et il a été enterré en Égypte, rahmatullah alayhi. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et pour en savoir plus sur ce grand homme de science, Al-Hafidh Abd al-Ghani, voir Tadkirat al-Huffad, ainsi que Siyar Alam Nubala, l'Iddahabi, rahimahullah ta'ala, wa ghafara lahu wa askanahu fasiha jannatih. Passons maintenant au deuxième point, une idée sur ce livre qui est Umdat al-Ahkam. L'ensemble des hadiths sélectionnés par Al-Hafidh ici, qui constituent ce livre, sont rapportés par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, ce qui constitue la plus haute marque d'authenticité. Et c'est un livre qui n'est ni trop long, ni trop court. Un peu plus de 450 hadiths à peu près. Cet ouvrage est basé sur des hadiths relatifs à l'fiqh. Il convient à tous les niveaux. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à cet ouvrage l'acceptation. Il a été diffusé à travers le monde islamique. Et c'est une référence incontournable, ce livre. Son auteur était un modèle dans la science du hadith, donc rien d'étonnant qu'il ait écrit un ouvrage de cette qualité. Les savants ont accordé à cet ouvrage une importance particulière. Certains l'ont expliqué de manière très détaillée et d'autres de manière courte. Beaucoup de ces explications sont éditées, que ce soit celles des anciens, comme celle de Ibn Daqiq al-Aïd, rahimahullah, qui est sur 2 tomes, ou celle d'Ibn al-Mulaqqin, qui arrive à plus de 10 tomes, et celle de Omar al-Fakhani, rahimahullah, qui est un érudit parmi les Malikites, rahmatullah alayh. Et parmi les contemporains, là, il y a l'interprétation du Cheikh al-Bissam, rahimahullah ta'ala, qui est Tayseer al-Allam, et il y a la celle de Cheikh Al-Utaymin rahmatullah alayhi, Tanbih al-Afham, et celle de Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi, qui a le même titre, Tanbih al-Afham. Et Cheikh Al-Utaymin, il a 2 explications de ce livre, une un peu plus détaillée en 2 tomes et une sur laquelle on se base qui est en un seul tome, sur laquelle nous allons nous baser pour notre étude inshallah. يقول الشارح رحمه الله هو الشيخ العثيمين رحمه الله عليه وهو من أعلام السنة في هذا الزمان والمحقق الفقيه الأصولي رحمه الله عليه يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذا شرح على الكتاب المسمى عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الذي ألفه الحافظ العالم أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. ولد رحمه الله في جماعيل من جبال نابلس في ربيع الثاني سنة 41 و500 من الهجرة، ورحل رحلات عديدة في طلب العلم ولا سيما علم الحديث ورجاله، وتوفي في مصر يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين من ربيع الأول سنة 600، ودفن في القرافة رحمه الله وغفر له. وقد بدأت في هذا الشرح بترجمة موجزة عن راوي الحديث ثم رتبته على النحو التالي: أولا بيان موضوع الحديث، ثانيا شرح الكلمات ومنها تراجم من ذكر في متن الحديث، ثالثا الشرح الإجمالي، رابعا فوائد الحديث على أني لا أستوعب جميع فوائده، خامسا بيان ما يحتاج إليه من سبب الحديث أو كشف مشكل أو جمع بين الحديث وغيره مما ذكر وعليكم السلام ورحمة الله مما ذكر في الكتاب المقرر أو غير ذلك. وسميته تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام، وهذا القسم مقرر الحديث للسنة الأولى المتوسطة بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. والله أسأل أن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، إنه جواد كريم. Et donc, venons à l'introduction de Cheikh Al-Uthaymeen. Cette introduction qu'il a fait à cette explication qu'il a fait, rahmatullah alayh, de Umdat al-Ahkam. Cheikh Al-Uthaymeen, il est un des grands imams, il est un des grands emblèmes de la Sunna, rahmatullah alayh. C'est un authentificateur, est un grand jurisconsulte et un grand fondamentaliste. Un homme qui avait, c'est une montagne de science de notre époque, rahmatullah alayh. Et donc il a dit, après Khutbat al-Haja, il a dit ceci, tandis ceci est une l'explication du livre intitulé Umdat al-Ahkam, intitulé Umdat al-Ahkam min kalami khayri al-anam, c'est-à-dire, ceci l'explication et l'explication du livre intitulé Les principes pour hadith, des règles juridiques, de la meilleure parole, de la parole de la meilleure créature, c'est-à-dire du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, rahmatullah alayhi, ce livre est écrit par le mémorisateur, le savant Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, qui naquit à Jamma'il, dans les montagnes du Nablus, en l'an 541 de l'Hégire. Il a fait beaucoup de voyages à la recherche de la science, surtout la science du hadith et ses hommes, et il est mort en Égypte le 23 Rabi' premier en l'an 600 de l'Hégire. Il a été enterré à Al-Qarrafa en Égypte, qu'Allah le couvre de sa sainte miséricorde. Et j'ai commencé cette explication avec une courte biographie du rapporteur du hadith. Il nous montre comment il a composé son explication, rahmatullah alayh. Et j'ai commencé cette explication avec une courte biographie du rapporteur du hadith, et je l'ai organisée de la façon suivante. Premièrement, la clarification du sujet du hadith. Deuxièmement, l'explication des mots et aussi la biographie de ceux qui sont cités dans le récit. Troisièmement, l'explication générale du hadith. Quatrièmement, les points à retenir du hadith, les enseignements à retenir du hadith. Mais je n'ai pas cité tous les enseignements du hadith. Cinquièmement, une clarification si c'est nécessaire sur la cause du hadith, ou pour expliquer quelque chose de confus ou difficile, et aussi à la réunion du hadith avec d'autres hadiths parmi les hadiths cités dans ce livre ou dans d'autres recueils. Et je l'ai intitulé Tanbih al-Afham bi sharh Umdat al-Ahkam. Et ce livre, comme il dit rahmatullah alayh, il l'a fait pour qui? C'est le programme de la cinquième année du secondaire dans les instituts qui dépendent de l'université de l'imam Mohamed bin Saoud, l'université islamique de l'imam Mohamed bin Saoud. Il dit, Ya Allah, je demande qu'il fasse que nos œuvres à tous soient sincères pour lui et conformes à son agrément, et bien et bénéfique à si soumis. Et il est celui qui a l'immense générosité. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في خطبة كتابه الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار. أما بعد، فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. إذنك لانتخدكسون دو الحافظ رحمة الله عليه الحافظ عبد الغني المقدسي son livre, il a dit la louange appartient à Allah, le souverain, le tout puissant, l'unique, le dominateur, et j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah seul, sans aucun associé, le Seigneur des cieux et de la terre, de ceux qui existent et de ceux qui existent entre eux, le puissant, le grand pardonneur, et j'atteste que Muhammad est son soumis, son messager, l'élu, le choisi, qu'Allah a pris sur lui ainsi que sa famille et ses purifiés et bons compagnons. Cela étant dit, un des frères m'a demandé de lui résumer un ensemble de hadiths relatifs aux règles juridiques du domaine du Muttafaq Alayh. Muttafaq Alayh, c'est-à-dire qui a l'unanimité des deux grands imams du hadith qui sont l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. C'est-à-dire rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Donc, j'ai donc répondu à sa demande en espérant qu'il soit utile. Je demande à Allah qu'il ne fasse profiter ainsi que toute personne l'ayant écrit, écouté, lu, appris ou consulté et qu'il le rende voué exclusivement pour lui et qu'il en fasse un moyen d'accéder au bonheur auprès de lui dans les jardins d'Idilis. Allah est notre soutien et il est le meilleur garant. Dans le commentaire de ce passage, qui est à l'Iqihi, fi al-Hamish, الشيخ العثيمين يقول أولا فيه بيان في هذه المقدمة فيها بيان سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب والاختصار تقليل الشيخ شيء وأحاديث الأحكام ما دل على الأحكام الشرعية من السنة النبوية ثانيا يقول رحمه الله عن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أنه ولد في شوال سنة 94 في بخارى وتنقل في البلاد الإسلامية لطلب الحديث فأخذ من عامة محدثي الأنصار وألف كتبا في الحديث ورجاله أهمها وأعمها نفعا كتاب الجامع الصحيح المشهور باسم صحيح البخاري روي عنه أنه قال خرجت الصحيح من 600,000 حديث ولم أخرج فيه إلا صحيحا توفي ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 في قرية من قرى سمرقند رحمه الله تعالى ويقول الشيخ أتاك ذلك بترجمة موجزة لإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري يقول أنه ولد في سنة 400 في نيسابور وتنقل في البلاد الإسلامية لطلب الحديث وتتلمذ على البخاري رحمهم الله وألف كتبا أهمها وعمها نفعا كتاب الصحيح المشهور باسم صحيح مسلم روي عنه أنه قال جمعت الصحيح من 300,000 حديث توفي في 24 من رجب سنة 61 و200 في نيسابور رحمه الله ويقول الشيخ وفي هذه الجملة يقول وهذا في الجملة لا في الجمع أي ما ذكره ابن عبد الغني الحافظ رحمه الله أنه ما جعل في العمدة إلا المتفق عليه يقول هذا في الجملة لا في الجميع لأن فيه ما لم يتفق عليه لكنه قليل جدا ونادر ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى يسوق الحديث أحيانا بلفظ البخاري وأحيانا بلفظ مسلم ويأتي أحيانا بسياق من روايات متفرقة وكأنه رحمه الله يراعي المعنى والتوسع في سياق اللفظ مع الاختصار. وعذره في ذلك أنه لم يكن يسوق لفظ طريق معين من الأسانيد حتى يتقيد به من غير تغيير ولا زيادة، والله أعلم. Commentons cette traduction de الحافظ رحمة الله عليه شيخ العثيمين. Il dit cette introduction plutôt contient la cause de l'écriture de ce livre et que c'est un résumé du hadith relatif aux règles juridiques pris dans la sunna prophétique. Et puis Cheikh Rahmatullah alayhi, Cheikh Al-Uthaymeen a cité une courte biographie de l'imam Al-Bukhari qui est né le mois de Shawwal en l'an 194 à Bukhara, qui a voyagé à travers le monde musulman pour demander le hadith. Et il a appris des savants du hadith de beaucoup de pays. Il a écrit des livres dans le hadith et les hommes du hadith. Mais le plus bénéfique et le plus important et le plus célèbre de ses livres, Jami' Sahih, célèbre sous le nom Sahih al-Bukhari, l'authentique du Bukhari. Il a été rapporté qu'il aurait dit que Imam Bukhari a dit « J'ai les hadiths de l'authentique, c'est-à-dire de son sahih, de 600 000 hadiths. Et je n'ai mis que l'authentique. » Il est mort la nuit de Eid al-Fitr, de l'an 256 de l'Hégire, dans un village parmi les villages de la région de Samarkand, rahmatullahi alayh. Et puis, Cheikh Al-Uthaymeen a cité aussi une courte biographie de l'imam Muslim, qui est né en 204 à Naysabur, et qui a voyagé dans les pays de l'islam pour demander le hadith. Il a étudié, l'imam Muslim a étudié chez l'imam Bukhari, rahmatullahi alayhim jami'an. Et il a écrit des livres, le plus bénéfique, et le plus important et le plus célèbre, Sahih Muslim, l'authentique du Muslim. Il a été rapporté qu'il a dit, j'ai compilé Sahih de 300 000 hadiths. Et il est décédé, rahmatullahi alayhim, le 24 Rajab 261 à Naysabur. Regarde l'imam Bukhari, 600 000 hadiths duquel il a sorti l'authentique. Regarde cette force et ce temps qu'ils ont donné à l'apprentissage de la sunna du prophète. Regarde son élève, l'imam Muslim, 300 000 hadiths pour sortir le recueil que nous avons devant nous. Hein? Et regarde maintenant nous, devant les 40 Nawawi, on s'arrête au milieu. Ou là on s'arrête, certains s'arrêtent au premier hadith, là au deuxième ou au dixième. Et après arrive la faiblesse, la fainéantise et l'occupation de, du mondain. Regarde leur aspiration, il était où? Himmatum aliya. Ils avaient des hautes aspirations, rahmatullah alayhi. Il ne faut pas croire qu'ils ne cherchaient pas aussi à subvenir à leurs besoins. Abadan. Rahmatullah alayhi. Et Cheikh Al-Uthaymeen a dit concernant les hadiths du livre, il dit, la condition qu'il s'est donnée, Hafiz Rahimahullah, dans l'ensemble, les hadiths font partie de la condition qu'il s'est donnée, c'est-à-dire qu'il n'a mis dans l'umda que ce qui a l'unanimité des deux Cheikhs, l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Il dit, sauf quelques-uns. Il dit, puis l'auteur, des fois, il cite le hadith avec l'expression du Bukhari. Et une fois, il va le citer avec l'expression de l'imam Muslim, rahmatullah alayh. Et des fois, il ramène des contextes d'autres versions de hadith, comme s'il prenait en considération le sens et qu'il voulait, rahimahullah, élargir le contexte de l'expression, tout en résumant. Et il est excusé en cela, dit Cheikh Al-Uthaymeen, car il ne ramène pas l'expression d'une voix précise, précise d'une chaîne particulière de transmission, pour qu'il se conditionne avec, sans rien rajouter, rien changer. Il dit, rahmatullah alayhi, Cheikh Al-Uthaymeen, seul Allah subhanahu wa ta'ala, sait. Hafiz, rahmatullah alayhi, a commencé son livre par Kitab Tahara. le livre de la purification. Kitab désigne en langue arabe l'objet d'un propos. Il a été nommé ainsi car il réunit des lettres, des mots et des phrases. Ici, il est à comprendre dans le sens de maktoub, ce qui est écrit. Dans la terminologie religieuse, kitab, ce terme désigne ce qui est écrit sur des pages pour transmettre à autrui ou ce qui est inscrit pour éviter de l'oublier. Les savants utilisent le terme kitab, livre, pour désigner ce qui réunit des chapitres et des parties. Prenons par exemple le livre de la purification. Dans certains ouvrages, comme dans Bulugh al-Maram, il est composé de 11 chapitres. Ici, le Maqdisi l'a composé de 7. Dans Bulugh al-Maram, il est composé de 11 chapitres. Premier chapitre, le chapitre des eaux. Le deuxième chapitre, le chapitre des récipients. Le troisième chapitre, l'impureté et la manière de s'en purifier. Le quatrième, les ablutions. Le cinquième, l'essuyage sur le khuf, le mas'a al-khuffayn. Et le sixième, ce qui annule les ablutions. Et le septième, la bienséance lors des besoins naturels. Et le huitième, les ablutions majeures et l'état d'impureté majeure. Et le neuvième, les ablutions sèches, c'est-à-dire tayammum. Et le dixième, les menstrues. Il est composé Bulugh al-Maram, rien que le livre Tahara, il est composé de 10 chapitres. Et tout ceci, pourquoi les hommes de science ont composé des livres comme ça? Pour faciliter la science. Hein? Sinon, les nobles compagnons, ceux qui les ont suivis à la perfection, n'avaient pas besoin de tout ça. Hein? Mais pour faciliter la science, les hommes de science ont fait ce genre de composition. Et pour bien maîtriser les sujets, et pour se rendre compte à quel moment on a fait l'erreur, qu'est-ce qui est une condition, qu'est-ce qui est un pilier pour pouvoir rattraper, et ainsi de suite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui couvre de sa sainte miséricorde. Yaqul al-Sheikh al-Utaymin, kitab al-Tahara. Al-Taharatu, yaqul al-Sheikh al-Utaymin, fil lugha al-Nadafa. Wa fil istilah, artifa'u al-Hadat, wa zawalu al-Najas, وتطلق على نفس التطهر وهي بهذين المعنيين حسية وتطلق على الطهارة المعنوية وهي طهارة العقيدة والأخلاق والأعمال ومن هذا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقوله في مقابل ذلك إنما المشركون نجس وقوله ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث وقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان يقول رحمة الله عليه وقد بدأ المصنفون في الفقه وأحاديث الأحكام كتبهم بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا صلاة إلا بطهور يقول وتم مناسبة قد لا تكون مما قصده العلماء بالذات وهي تذكر المتعلم عند بدء تعلمه بتطهير قلبه وإخلاص النية لله تعالى في طلب العلم بأن يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وحفظ الشريعة الإسلامية ونشرها بين الناس وحمايتها والنضال دونها ورفع الجهل عن نفسه وعن الناس جميعا حتى يعبدوا الله على بصيرة. Et donc, Cheikh Al-Utaymin, rahmatullah alayhi, dit concernant Tahara, il dit Tahara en langue arabe, disait la pureté. Dans la terminologie religieuse, Tahara désigne la levée de la souillure et la disparition de l'impureté. Et il désigne aussi l'acte de purification. Et il a deux sens. La purification concrète et il désigne aussi, il désigne la purification concrète et il désigne aussi la purification abstraite, à savoir la pureté des croyances, du comportement et des actes. Et fait partie de cela ce qu'Allah a dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, dans Surah Tawbah, verset 103, « Prends de leur bien une sadaqa par laquelle tu les purifies. » Et la parole d'Allah dans la traduction nous dit ceci, qui fait face à celle-ci, à celle-là. Hein? Dans la traduction approximative nous dit ceci, « Les associateurs ne sont qu'impureté. » Hein? Et aussi la parole d'Allah dans Sourate Al-Anbiya, verset 74, la traduction approximative nous dit ceci, « Et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices, les impuretés de la sodomie. » Qui, il s'agit de qui? De l'autre, alayhi salatu wassalam, que Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé. Et dans Sourate Al-Ma'ida, il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, certes le vin, le jeu d'hasard, les statues, les flèches de divination ne sont qu'une impureté abominable qui est l'œuvre de Satan. Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi, il dit, les auteurs qui ont écrit dans le fiqh et dans les hadiths concernant les règles juridiques ont débuté leurs ouvrages par la purification, mettant en avant et donnant ainsi la priorité au plus important pilier de l'islam, qui est la prière après les deux attestations de foi. Donc, pas de purification, pas de prière. Et il dit, rahmatullah alayhi aussi, c'est une occasion peut-être que les savants n'ont pas voulu spécifiquement, c'est de rappeler à celui qui débute l'apprentissage de purifier son cœur, et que sa demande de la science soit sincère pour Allah, et qu'il cherche avec la demande de la science les récompenses d'Allah et l'au-delà, et qu'il mémorise la législation et la propage et la défende, et que son but doit être se débarrasser de son ignorance et débarrasser les gens de la leur pour qu'ils adorent Allah avec science et clairvoyance. فنأتي إلى الحديث الأول في هذا الباب وهو حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Donc venons au premier hadith de ce chapitre, c'est le hadith de Omar ibn Khattab رضي الله عنه وارضاه, qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, les actes ne valent que par leurs intentions. Et dans une version, par l'intention au singulier. Et chacun sera récompensé selon son intention. Celui qui immigre pour Allah et son messager, son immigration lui sera comptée comme étant pour Allah et son messager. Et celui qui immigre pour un bien mondain, qu'il souhaite acquérir, ou pour une femme qu'il espère épouser, son immigration lui sera comptée comme telle. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Yaqulu al-Sheikh al-Uthaymin rahmatullah alayh, al-Rawi, ay Rawi al-Hadith, huwa Umar ibn al-Khattab, amir al-Mu'minin, wa tani khulafa' al-Muslimin, al-Faruq, kana min ashraf Quraysh, أسلم في السنة الخامسة أو السادسة بعد البعثة، فكان في إسلامه عز للمسلمين، شهد المشاهد كلها، وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بعهد منه، فقام بها خير قيام بعده. وفي آخر ذي الحجة لأربع ليال بقين منه طعنه غلام مجوسي، وأمير المؤمنين قد كبر لصلاة الفجر فحمل إلى بيته رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي بعد ثلاث ليال سنة 23، ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين في حجرة عائشة رضي الله عنها. فكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر وأياما رضي الله عنه وأرضاه. Et donc, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit concernant la biographie du rapporteur du hadith qui est Omar ibn al-Khattab, le prince des croyants, rahimahullah ta'ala, le deuxième khalif des musulmans, le Farouq. Il a été nommé le Farouq par le prophète alayhi salam, car il a séparé entre le vrai et le faux. Alors que les musulmans, avant l'islamisation, avant la conversion de Omar ibn al-Khattab, n'osaient pas montrer leur islam. Une fois qu'Omar s'est converti, ils ont tous osé montrer leur islam. Radiallahu anhu arda. Et pour cela, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Farouq. Ils ont osé défier les kuffars à ce moment-là, avec la conversion d'Omar radiallahu anhu arda. Omar ibn al-Khattab fait partie de la noblesse de Quraysh. Il s'est converti à l'islam la 5e ou la 6e année de l'envoi du messager alayhi salam. Sa rentrée dans l'islam était une force et une grande force et un grand soutien pour les musulmans. Il a assisté à toutes les batailles, radiyallahu anhu arda. Et il est devenu khalif après Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu arda. Et c'est Abu Bakr Siddiq qui l'a désigné pour lui succéder sur la khilafa de la communauté. Et il a accompli cette khilafa comme il se doit, radiyallahu anhu arda. Il l'a accompli de la meilleure des façons. Et en l'an 23 de l'Hijr, le 4e jour de Dhul Hijjah, 4 jours avant la fin du mois de Dhul Hijjah de cette année, la 23e année de l'Hijr, il est mort après qu'un esclave zoroastrien les poignardés pendant la prière du Fajr alors qu'il venait de dire Allahu Akbar, Kbirat al-Ihram. Et il a été enterré avec le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr dans la chambre de Aisha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. La khilafa de Omar ibn al-Khattab a duré 10 ans et 6 mois et quelques jours, radiyallahu anhu wa arda. Donc, وفي الهامش هنا ذكر أن هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي برقم 1 والأول، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه مسلم برقم 1907، باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، والهجرة الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه، وقد وقعت في الإسلام على وجهين: الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة. الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت الهجرة إذاك تختص بالانتقال إلى المدينة من مكة، فانقطع الاختصاص بعد فتح مكة، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا. ذكر ذلك صاحب تحفة الأحوذي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله فيما يخص الحديث إنما الأعمال بالنيات: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته، قال الشافعي وآخرون هو ثلث الإسلام. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكما أن الإيمان فرض على كل أحد ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. وفرض عليه أي على الإنسان، يقول ابن القيم: فرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له واسكنه فسيح جناته. ومارج دو لا باج il est cité ici que le hadith de l'intention est rapporté par Bukhari dans le livre Le début de la révélation, sur le numéro 1, dans le chapitre Comment la révélation a débuté pour le messager alayhi salatu wassalam. Et il est rapporté par l'imam Muslim sur le numéro 1907, chapitre « Certes, les actes ne valent que par leur intention » et que ce hadith, Muslim a dit que ce hadith concerne le combat et toutes les œuvres. « Wal-hijra » comme le dit le Mubarak Fouri Sahib Tuhfat al-Ahwadi, « l'hijra » c'est l'abandon. C'est abandonner une chose pour une autre. Et dans la législation, c'est abandonner ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, et en islam, interdit. Et en islam, cette hijra s'est accomplie par deux façons. Première façon, l'abandon de la demeure de la peur pour la demeure de sécurité. Comme la hijra qui s'est faite deux fois de la Mecque vers l'Abyssinie, où les muhajiroun sont partis de là-bas pour préserver, par peur d'être perturbés par les mécréants, pour préserver leur religion. La deuxième façon de la hijra, qui s'est accomplie durant l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, l'abandon de la demeure de mécréance vers la demeure de la foi, et cela s'est déroulé une fois que le prophète alayhi salatu wassalam s'est stabilisé à Médine, et ceux qui ont pu ont immigré vers le prophète alayhi salatu wassalam. Et à cette époque, la hijra était spécifique de la Mecque vers Médine. Et cette spécificité n'a plus lieu d'être, mais reste le sens général de la hijra, qui est le fait de quitter les pays de mécréance vers les pays de l'islam. Pour ceux qui le peuvent, comme l'a dit Sharih al-Tirmidhi, fin de citation. يقول الشيخ العثيمين: موضوع الحديث بيان منزلة النية من الأعمال. ويقول في شرح الكلمات: إنما أداة حصر، والحصر تخصيص شيء بشيء. يقول: الأعمال جمع عمل، وهو ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل أو ترك مقصود، مثل أو ترك مقصود مثل قراءة القرآن والوضوء وترك السرقة قصدا. بالنيات جمع نية، وهي القصد والإرادة، والباء للمصاحبة، والمعنى أن كل عمل لا بد أن يكون مصحوبا بنية إذا وقع من عاقل له. وفي رواية بالنية، أي أن بعض من روى الحديث رواه بلفظ إنما الأعمال بالنية، وهي مفرد نيات، لكنها بمعنى الجمع، لأن المراد بها الجنس. امرئ إنسان ما نوى ما قصد، والمعنى ليس للمرء إلا ما قصد بعمله، فإن قصد به عبادة الله صار عبادة وأتيب عليه، وإن قصد سوى ذلك كان له ما قصد. هجرة، والهجرة في اللغة الترك، يقال هجرته أي تركته، والمراد بهنا ترك السكنى في بلاد الكفار بالانتقال عنها إلى سكنى دار الإسلام، إلى الله، إلى دينه، والوصول إلى رضوانه والجنة ورسوله. المراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى الهجرة إليه في حياته أن يهاجر إليه ليكون في معيته لنصره والتعلم منه والتأسي بسنته، والهجرة إليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى أتباعه ومكان إقامة شريعته. فهجرته إلى الله ورسوله أي فقد بلغ الغاية التي لا أسمى منها ولا أجل، وهي الوصول إلى الله ورسوله. دنيا يصيبها أي شيء من الدنيا يدركه كالمال والشرف والرئاسة، امرأة أنت يتزوجها ينكحها، وخص المرأة مع أنها من متاع الدنيا لكثرة تعلق الرغبات فيها، فكأنها في كفة، وسائل متاع الدنيا في كفة أخرى. يقول رحمه الله: فهجرته إلى ما هاجر إليه أي من دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ولم يذكرهما كما ذكر الهجرة إلى الله ورسوله تحقيرا لشأنهما في أن يكون مراد المهاجر الذي لا ينبغي أن تكون هجرته إلا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبيانا لانحطاط رتبة مريدهما بالهجرة أي مريد الدنيا أو الزواج بهجرته. والشرح الإجمالي يقول رحمه الله: هذا حديث جليل شامل جامع يحدث فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين منزلة النية من الأعمال وأنها شاملة لكل عمل، فما من عمل إلا بنية، ومداره عليها صحة وفسادا وثوابا وعقابا، وأن لكل امرئ ما نوى بعمله من قصد سام جليل وضده. بين ذلك صلى الله عليه وسلم ترغيبا للعامل في السمو بنيته بأن يقصد بكل عبادة قام بها وجه الله والدار الآخرة، ويبتعد بها عن القصد الدون والمراتب الحقيرة. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة لتقاس عليها بقية الأعمال، فالمهاجرون يتركون بلادهم وينتقلون إلى البلاد الإسلامية، ولكنهم على نيات شتى يتفاوت بها ثواب هجرتهم تفاوتا كبيرا، مع أن العمل واحد. فمن هاجر إلى الله ورسوله طلبا لثواب الله ونصرة لدينه فذلك المهاجر المخلص الذي بلغ بنيته أجل الغايات وأعلى الدرجات، ومن هاجر طلبا للدنيا ومتعها فذلك الذي انحط بنيته إلى متاع الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وفوائد الحديث: أولا بيان أهمية النية في الأعمال، وأن مدار صحة الأعمال والجزاء عليها بحسب النية. ثانيا الحث على إخلاص النية لله تعالى وبيان فضيلة ذلك. ثالثا التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة وبيان حقارة ذلك. ورابعا أن الناس يتفاوتون في نياتهم وأن لكل امرئ ما نوى. خامسا الطهارة من الأعمال فلا تكون إلا بنية، ولكل متطهر ما نوى بطهارته، وهذا محل الاستشهاد بالحديث. سادسا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بلاغته وبيانه، حيث يذكر الأصول والقواعد الكلية ثم يوضحها بالمثال. إذنك شيخ العثيمين يدي لو سوجي دي حديث، il dit c'est la clarification sur la place de l'intention pour les œuvres. Ce hadith donne une clarification sur la place de l'intention concernant les œuvres. Et ensuite, il a expliqué les mots du hadith. Les mots et leur signification en arabe que je ne citerai pas en français, sauf ce cas où Cheikh attire l'attention sur le contenu de cette phrase qui dit « Et celui qui immigre pour un bien mondain qu'il souhaite acquérir ou pour une femme qu'il espère épouser, son immigration lui sera comptée comme telle. » Il a dit, rahimahullah, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas recités. Hein? C'est-à-dire, il a dit tout simplement, son immigration sera comptée comme telle. Hein? Il ne les a pas recités comme pour l'immigration pour Allah et pour son messager, qu'il a cité une deuxième fois. Alayhi salatu wa sallam. Et ceci, dit Cheikh Al-Utaymiyyah rahmatullah alayhi, ceci par avilissement pour cette hijra. Et pour, par avilissement de cette hijra, qui est pour se marier ou pour le mondain, alors que la hijra doit être vers Allah et son messager, alayhi salatu wa sallam. Ainsi, il dit, rahmatullah alayhi, ainsi le messager montre la bassesse dans laquelle est tombé celui qui a fait la hijra pour le mondain et le mariage. Qu'il est tombé très bas. Hein? Et donc, on arrive au sens général du hadith. Cheikh Rahmatullah a dit, c'est un noble hadith. Et c'est une synthèse dans laquelle le prince des croyants dit que le prophète alayhi salam a clarifié la place de l'intention dans les œuvres. Et que celle-ci englobe tous les actes. Chaque acte se fait avec une intention. Et que la validité ou la non-validité de l'acte dépend de l'intention. La récompense et le châtiment de l'acte dépendent de l'intention de la personne. Et que tout être aura ce qu'il a voulu avec son acte et le but pour lequel il a accompli. Hein, si c'est un noble but ou le contraire. Parce que le terme niya, c'est le qasd, c'est un but. C'est aller vers la chose. Et c'est le but qui se noue dans le cœur de la personne par cette intention. Et donc, si le but il est noble et il est pour Allah, il va en décoller la récompense. Mais si le but est vil, il est pour autre chose, ben, il est évident que la situation est dangereuse. Et il dit, rahmatullah alayhi, le prophète a clarifié cela pour susciter le désir chez celui qui œuvre pour qu'il ait un but, un noble but, et pour qu'il ait un but élevé, pour que chaque acte d'adoration qu'il accomplit, il l'accomplit pour Allah. Il l'accomplit pour Allah et pour le trouver dans le delà. Et qu'il doit s'éloigner des buts vils et bas. Le prophète, alayhi salatu salam, a donné un exemple avec la hijra. Pour faire l'analogie des autres œuvres avec l'œuvre de la hijra. Il a donné un exemple. Mais tu fais l'analogie avec tout ça. Hein, avec ce qu'il a dit sur la hijra, tu fais pour les autres œuvres. Tu veux quoi avec ta prière? Pour qui tu l'as fait? Pour Allah ou pour autre? Hein? Et ainsi de suite, et pour toutes les autres œuvres. Hein? Car ceux qui ont fait leur hijra, les muhajiroun, délaissent leur pays. Ils vont vers les pays de l'islam. Délaissent les pays de mécréance. Ils vont vers les pays de l'islam. Mais leurs intentions sont différentes. Et donc, cette différence dans l'intention crée un énorme écart entre eux, au niveau des récompenses et au niveau des degrés atteints. Il découle de l'intention. Alors que l'œuvre, il est identique. L'œuvre, il est identique. Mais ce qui fait la différence, c'est l'intention, ce qui est noué dans le cœur. Celui qui immigre pour Allah, qui immigre vers Allah et son messager, cherchant la récompense d'Allah et défendant la religion d'Allah, celui-là, c'est le muhajir sincère, qui a atteint avec son intention la cime du but. Hein? Et celui qui immigre par souhait d'acquérir du mondain ou pour se marier avec une femme, celui-là, son intention est tombée très bas. Et dans le dehors, comme a dit Cheikh, il n'aura rien du tout. Hein? Donc c'est pour ça que nous devons faire très attention à ce qu'il y a dans nos cœurs. Travail du cœur, parmi nous, salaf, radhiyallahu anhum, qui ont dit, l'intention c'est quelque chose qui les a fatigués. Certains ont travaillé leur intention pendant 20 ans. C'est un travail constant que nous devons faire sur notre intérieur, sur nos cœurs. Qu'est-ce que nous voulons avec nos actes? Qu'est-ce que je veux avec ma parole? Qu'est-ce que je veux avec ce que je fais ou ce que je dis? La face d'Allah et la récompense d'Allah ou autre chose? Ou de se montrer devant les gens et d'avoir la réputation? Et ceci, c'est un travail qui doit être, que nous devons accomplir constamment pour ne pas arriver les mains vides devant Allah Azza wa Jal. Croyons que nous avons beaucoup de choses alors qu'ils sont partis. Ils ont été détruits par l'ostentation ou autre. Donc les enseignements du hadith, le premier enseignement, la clarification de l'importance de l'intention et que les œuvres ne valent que par leur intention. Au niveau de la validité de l'œuvre et au niveau des récompenses. Tout cela dépend de l'intention. Le deuxième enseignement, susciter l'être humain à la sincérité et avoir dans ses actes l'intention pour Allah. Et aussi, ça montre les mérites de cela, les mérites de l'intention. Dans le hadith, il te montre les mérites de l'intention. Et il suscite le fait d'œuvrer d'une façon sincère pour Allah. Le troisième enseignement, c'est l'avertissement contre le fait de vouloir les choses mondaines par les œuvres de l'au-delà. Et la clarification de la bassesse de cela. Et comme quoi c'est un acte vil et c'est une perte de vouloir avec les œuvres de l'au-delà le mondain. Et le quatrième enseignement, les gens ne sont pas à pied d'égalité dans leurs intentions. Et chacun aura ce qu'il a cherché avec son intention. Et les cœurs, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il y a dedans. La cinquième leçon, la purification fait partie des œuvres qui doivent être accomplies avec une bonne intention. Hein? Et tout un chacun qui se purifie sera récompensé selon l'intention avec laquelle il a accompli cet acte. Et c'est là la preuve du hadith, hein, dans ce chapitre. La sixième leçon, la bonne manière dans l'éducation du prophète, alayhi salatu wassalam, avec cette rhétorique complète et cette forte éloquence et cette grande clarification qu'il avait, alayhi salatu wassalam. Il a cité les fondements et les règles et il a donné les exemples pour les comprendre. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Et on arrête là, inshallah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum. Wa jazakumullahu khairan.